Bonjour à tout le monde. J'espère que ce message vous trouvera chacun en bonne santé physique, aussi en bonne santé spirituelle. Il faudrait d'abord que nous fassions une lecture dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, des versets qui sont bien connus. Verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Cette époque troublée, je pense qu'il est bon de réfléchir, et justement on a le temps de réfléchir confiné chez soi, de réfléchir sur le sens de la vie et tout particulièrement sur le sens de notre vie, de ma vie à moi. La période de confinement va nous permettre d'approfondir cette réflexion et de le faire sérieusement, peut-être, enfin je l'espère pour chacun d'entre nous. Le monde, lui, il cherche à divertir les hommes, hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, etc. On essaie de divertir au maximum les non-croyants. Le chrétien, lui, il peut évidemment se divertir, ce n'est pas interdit, mais je pense que c'est une bonne occasion aussi, ce confinement, de s'approcher du Seigneur et de faire un peu le bilan, prendre le temps de réfléchir à tout ce qui se passe en ce moment. J'aime beaucoup ce texte, je ne vais pas voir chaque détail de ce texte d'Ecclésiaste, mais il y a un temps pour le confinement, il y a un temps pour la réflexion, et le premier point que j'aimerais aborder, c'est un temps pour réfléchir sur la chute de l'homme. Je pense que c'est bien de temps en temps s'arrêter et de se souvenir de cela, se souvenir de l'origine en fait de tous les maux, des maladies, et peut-être même de ce qu'on vit aujourd'hui. La chute de l'homme, le péché et son horreur, aujourd'hui nous le vivons. C'est ce qu'on voit, hélas. Adam a chuté, vous le savez très bien, je ne vais rien vous apprendre, et cela a eu des conséquences aujourd'hui encore, et la mort, la tristesse de la mort, toute cette douleur aujourd'hui qui est dans le monde, tout ça a l'origine du péché. Romains 5, 12 nous dit que la mort est entrée dans le monde, et aujourd'hui, hélas, elle poursuit son œuvre dévastatrice. L'homme a été chassé de la présence de Dieu et, on le sait, impossible de concilier la sainteté et le péché. Il fallait que Dieu se sépare du pécheur. Je pense qu'il a dû le faire à contre-cœur. Les effets de ce péché, c'est que, à partir de là, l'homme a été livré à lui-même. Il a été éloigné du jardin d'Éden. Il a été sur une terre hostile, une terre qui est dangereuse. Il a voulu assouvir son indépendance. D'une certaine manière, il a troqué la sécurité que Dieu lui donnait. Pourquoi ? Pour la désolation, tout simplement, et tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'homme a échangé sa paix, sa joie avec Dieu à l'époque dans le jardin. Il l'a échangé pour la maladie, pour la souffrance et pour la tristesse. S'il avait su. À ce moment-là, dans le jardin d'Éden, il était confiné entre les mains de Dieu, d'un Dieu plein d'amour, qui l'aimait, enfin il aime toujours, Dieu nous aime toujours, mais une relation particulière. Aujourd'hui, il préfère être confiné chez lui, peut-être pour certains même jusqu'à mourir, hélas. L'homme est curieux. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui, et ce qui se passe dans l'actualité nous rappelle effectivement que le péché est bien là dans le monde et est encore agissant. Cette chute fait réfléchir aussi dans le sens de l'obéissance et de la désobéissance de l'homme envers Dieu. On le sait, Adam a désobéi malgré toute la liberté qu'il avait dans le jardin d'Éden et que Dieu avait laissé à l'homme. Il a demandé une seule chose, c'était de lui obéir. C'était pas grand-chose, pas manger de l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre. Mais l'homme, un peu effronté, je crois, a préféré désobéir et cela a produit la mort et toutes les choses que nous voyons aujourd'hui. Heureusement, Dieu nous aime et Dieu a prévu le salut en Jésus-Christ. On aurait pu éviter la mort de Jésus-Christ, on aurait pu même éviter la mort de tous les hommes. Bon, c'est comme ça, mais Dieu avait prévu toutes ces choses bien avant que ça n'arrive. Et on peut remercier le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, l'homme n'a pas vraiment tiré les leçons de la chute, j'ai l'impression, à part peut-être les chrétiens, mais globalement, parce qu'il poursuit délibérément son désir de désobéir à Dieu. Et puis parfois, il s'arrête et se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Il est étonné des conséquences. Mais comme il ne veut pas reconnaître Dieu ni le péché, forcément, il va chercher ailleurs. La question se pose aussi pour nous qui sommes chrétiens. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes obéissants? Ce confinement, ce moment, ce temps, peut-être, ça nous permet de nous poser aussi des questions vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. On aime bien jeter la pierre chez les autres, mais est-ce que moi-même, je suis obéissant? Dieu permet parfois des temps, et particulièrement peut-être ce temps, pour que nous, en tant que chrétiens, nous réfléchissions aussi à la vie chrétienne, à notre vie chrétienne. C'est l'occasion de faire le bilan, j'ai envie de dire. Cette chute de l'homme rappelle aussi la fragilité de l'homme. On peut lire dans le psaume 103, 15 à 16, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » On le sait, l'homme est fragile, et la Bible nous rappelle que la finalité de la vie de tout homme est évidemment la mort. En tant que chrétien, on attend évidemment l'enlèvement de l'Église, mais bon, on verra bien. Et c'est bon de s'en souvenir que la finalité de l'homme et de la vie, c'est la mort, parce que si j'en prends conscience, forcément, je veux me préparer à rencontrer le Créateur. En tant que chrétien, je me prépare à cela, évidemment. Et je pense au monde. Et Dieu a laissé suffisamment de temps à l'homme, depuis des milliers d'années, pour ne pas prendre à la légère le salut qu'il était en train de leur offrir. Se souvenir de la fragilité de la vie, ça nous rappelle aussi que rien n'est acquis, en fait. Rien. Hein. On vivait tranquillement il y a encore un mois ou deux, on entendait parler légèrement d'un virus quelque part, mais pour nous, ça ne nous concernait pas, et aujourd'hui, nous sommes confinés, nous n'avons pas le droit de sortir comme nous voulons, mais personne n'avait pensé à ça. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Rien n'est acquis. Parfois, nous vivons un peu comme si on n'allait pas mourir demain. Moi, le premier, évidemment, parce qu'on court, parce qu'on a les activités et un tas de choses, mais de temps en temps, c'est bien de s'arrêter et de revenir dans la réalité. Hein, parce que cette pandémie rappelle que finalement, on ne contrôle absolument rien. Un tout petit virus paralyse la Terre entière, paralyse les nations. C'est incroyable quand on y réfléchit un petit peu. Et même qu'en tant que chrétien, je peux me dire « rien n'est acquis ». Et en me disant cela, parfois on peut se dire quand même « est-ce que je ne néglige pas ce que Dieu me demande ?» Je cours, je vais à droite à gauche, j'ai des activités, j'ai un tas de choses à faire, et stop ! Occasion de réfléchir, est-ce que moi-même, je ne néglige pas ce que Dieu me demande ? Ou ça ne m'intéresse peut-être pas. Mais hélas, et j'espère que ça sera le plus loin possible, mais chacun d'entre nous, sa vie prendra fin un jour ou l'autre. Est-ce que, si ça arrivait bientôt, est-ce que j'aurais à rougir devant le Seigneur ou est-ce que je suis prêt à le rejoindre aujourd'hui? Finalement, cette fragilité de l'homme aussi nous rappelle que nous dépendons entièrement de Dieu, de ce Dieu qui est absolument souverain. Psaume nous rappelle qu'il tient ma vie entre ses mains, il connaît le nombre de mes jours, lui sait quand je vais le rejoindre, moi pas, mais lui sait. Lui n'a pas besoin de se préparer, mais moi j'ai besoin de me préparer. Je vis aujourd'hui grâce, non pas grâce à mes efforts, j'essaie d'être en bonne santé, oui, on essaie de faire les bons gestes, ça c'est très bien même, mais je dépends entièrement de Dieu. Heureusement que la grâce de Dieu est là, et chaque jour que je peux vivre, je devrais être reconnaissant. Et chaque matin, quand je me réveille, merci Seigneur pour la nouvelle journée que tu m'offres aujourd'hui. Et cela ne signifie pas qu'il ne faut pas être prudent. Je crois que le gouvernement et la sagesse voudraient que si moi je ne suis pas malade, tant pis pour les autres. Non, surtout en tant que chrétien, on est appelé à aimer le prochain. Je vais me confiner, je vais prendre mes distances les uns avec les autres parce que l'amour, c'est aussi protéger l'autre. Vous ne savez pas si vous-même vous êtes contaminé. Dans ce cas-là, on ne veut pas contaminer les autres. Voilà donc un temps qui est fait pour nous faire réfléchir sur le péché, mon péché peut-être, mais particulièrement sur l'horreur du péché et tout ce que ça provoque actuellement. Et si j'y réfléchis, ça va peut-être me donner envie aussi de changer, m'améliorer, de vivre cette vie de sanctification que le Seigneur nous demande. Deuxième point, un temps pour faire le point sur sa vie chrétienne. On se souvient d'où vient le péché, mais là on peut aussi prendre le temps de se souvenir et ma vie chrétienne. Qu'est-ce que j'en fais vraiment depuis que je suis né de nouveau? Où est-ce que j'en suis? Si je devais dresser le bilan aujourd'hui. Et ce temps, justement, de confinement, ce temps me permet de faire le point, peut-être déjà sur la réalité de mon humilité. Est-ce que je suis vraiment humble? Si je posais la question à tout le monde, on dirait tous, oui, je suis humble. Mais est-ce que je réalise que je ne suis pas forcément? Ce temps, c'est peut-être là pour nous faire réaliser notre petitesse, et donc l'humilité, évidemment. Et surtout en tant que chrétien, est-ce que nous sommes vraiment humbles devant Dieu? On a tous de l'orgueil, je crois que personne n'est parfait dans cette humilité, mais quand même, à un moment, on peut se poser la question, est-ce que c'est mon orgueil qui dirige ma vie? Et vous savez, l'orgueil, ça crée beaucoup de choses, de tristesse dans l'homme, ou est-ce que j'essaie d'être humble et de faire comme le Seigneur me demande? Dieu permet des temps difficiles, il l'avait permis pour Job, pourquoi il ne le permettrait pas pour nous? Mais il ne le permet pas par hasard, il le permet pour faire le point. Job a fait le point à ce moment-là avec Dieu. Et nous-mêmes, c'est peut-être la bonne occasion de faire le point, parce que nous avons le temps déjà de le faire, le point sur nos habitudes, le point sur nos attitudes, le point sur ma vie chrétienne, tout simplement. Une bonne occasion de prendre du recul et de s'humilier devant Dieu. Moi, je crois que c'est important de le faire. L'occasion de lui demander pardon, peut-être pour mes négligences, de peut-être trop courir, de ne pas m'asseoir de temps en temps aux pieds de Jésus-Christ. Un temps peut-être pour se restaurer, mais spirituellement, ou restaurer des relations les uns avec les autres. Un temps tout simplement fait d'amour les uns pour les autres, mais aussi avec soi-même. Un temps pour réaliser le temps qu'on perd. Dans Éphésiens 5, 16, il est dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Des fois, on l'a lu il y a encore quelques semaines peut-être, et on l'a lu vite fait, mais aujourd'hui, les jours sont vraiment mauvais. Et c'est l'occasion de réfléchir sur ce temps que nous avons et que Dieu nous donne, mais que peut-être nous gâchons par mille et une activités qui ne servent pas forcément à quelque chose, plutôt que s'approcher de Dieu, se nourrir spirituellement et marcher avec lui. On court tous, on court vite, c'est vrai que le monde nous y pousse quelque part, mais souvent on court, mais pas vraiment vers l'essentiel. C'est ça le problème. L'Ecclésiaste nous rappelle dans le chapitre 1, verset 2, que toute est vanité. Alors, évidemment, suivre le Seigneur, ce n'est pas une vanité, mais bien souvent, beaucoup de choses ne sont pas importantes dans ma vie et ne doivent pas remplacer ma relation avec le Seigneur et tout ce qu'il me demande dans la Bible. Cette épreuve, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, permet de remettre les pendules un petit peu à l'heure. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est les loisirs, les activités, ma profession, ou est-ce que c'est Jésus-Christ et ma relation avec lui qui compte? L'occasion de faire aussi le point sur ma maturité chrétienne. Alors, je ne sais pas où chacun en est, mais normalement, le Seigneur nous demande d'être mature, en tout cas de tendre vers cette maturité chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis dans la crainte ou dans la foi? C'est légitime d'avoir peur, il n'est pas le contraire, mais pas d'être affolé non plus. Est-ce que je suis dans la crainte ou est-ce que je vis par la foi? Vivre par la foi, ça ne veut pas dire non plus ne pas avoir peur. On peut avoir peur pour soi, peut-être même plus pour les proches, mais la foi ne panique pas. Devant la maladie, je l'ai dit, la panique est forcément légitime, même pour le chrétien, on est tout à fait d'accord. Mais la foi nous rappelle qui tient la barre. Okay? Je suis, moi en tant que chrétien, entre les mains du Seigneur. C'est lui qui tient ma vie. C'est lui qui décide de toutes choses dans ma vie. Et comme il est tout-puissant et capable de tout, il n'y a aucun problème de tenir sa main. Mais peut-être que vis-à-vis de cette maturité chrétienne, ce temps justement où nous ne pouvons pas nous réunir ensemble, est-ce que je suis capable, grâce à cette maturité chrétienne, de me nourrir spirituellement tout seul? J'ai mon habitude de venir peut-être le dimanche à l'église, le vendredi à l'étude biblique, mais maintenant je me retrouve un petit peu livré à moi-même. Est-ce que je suis suffisamment mûr pour prendre les devants et me nourrir spirituellement suffisamment tout seul? Sans être stimulé par l'église, par un tiers, par moi, par le pasteur, mais par le seul désir d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Pour celui qui le fait tous les jours, rien ne va changer en fait dans sa vie. Il en avait besoin tous les jours avant, il en a besoin encore aujourd'hui. Mais si je n'ai pas l'habitude de le faire, c'est peut-être une bonne occasion de commencer à prendre l'habitude de lire ma Bible, de prendre un temps de prière, peut-être aussi en tant qu'homme, de prendre mes responsabilités en tant que chef de famille. Je vous ai envoyé un mail avec petite, quelques aides pour faire un culte de famille. Mais là, en tant qu'homme, maintenant, c'est mon rôle de prendre les devants, de nourrir spirituellement ma famille. Je n'ai pas besoin d'être pasteur pour le faire. Il suffit d'avoir une Bible, il suffit de chanter 2-3 cantiques, de pouvoir prier ensemble avec les enfants sans faire rien de compliqué. Mais c'est ma responsabilité en tant que chef de famille, en attendant qu'on puisse de nouveau se revoir. Et j'espère que ce sera bientôt. Je suis le chef de famille, c'est moi qui dois guider maintenant ma famille, mes enfants, vers le Seigneur et les nourrir spirituellement. Se préparer aussi au pire, ce que je n'espère évidemment pour personne. On peut toujours se poser la question, et si aujourd'hui était mon dernier jour ? Moi, je travaille dans un lieu où il y a beaucoup de gens, et chaque jour je pars et je prie et je demande au Seigneur de me protéger. Je fais évidemment tous les gestes barrières qu'il faut, mais qui sait ce qui peut m'arriver dans quelques jours ? Si c'était ma dernière semaine, mon dernier jour, je ne sais pas, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu ? Et surtout, en tant que chrétien, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu ? Le problème de rencontrer Dieu, on va se dire, ouais, je suis prêt à le rencontrer. La vraie question, c'est, elle est différente, c'est, est-ce que j'ai réglé tous mes problèmes liés, par exemple, au pardon vis-à-vis des autres, ou est-ce que j'ai pardonné aux autres ? Est-ce que j'ai lié un maximum de choses liées au péché ? On ne sera jamais parfait, on est bien d'accord, mais quand même, il y a des choses flagrantes. Est-ce que finalement, si je devais partir demain, je suis présentable devant Jésus-Christ ? Ça, c'est pour moi. On peut être prêt, mais ça peut être pour quelqu'un de proche. Et si je perdais un membre de ma famille, ça peut aussi arriver. Est-ce que je suis prêt au deuil ? Ou la question, la phrase, je la reformule. Est-ce que je suis prêt à accepter la volonté de Dieu, malgré tout le chagrin, évidemment, qu'il y aura derrière ? Pas évident. Et il faut réfléchir aujourd'hui, parce que ça n'arrive pas quoi aux autres, hélas. Est-ce que je suis prêt à accepter de suivre Jésus-Christ malgré les chemins difficiles qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, et peut-être même qu'il a décidé pour moi ? Est-ce que je suis prêt à tout cela ? Ça, c'est ma maturité spirituelle qui le dira ou pas. Voilà donc un temps pour faire le point sérieusement sur ce que j'appelle la vie chrétienne. Si je me dis être chrétien, je dois prendre vraiment le temps de réfléchir en ce moment à toutes ces choses. Et on a le temps, donc en lisant la Bible, en priant, en se mettant à genoux devant le Seigneur, en faisant le point. Et je crois que c'est vraiment une très bonne occasion. Troisième chose qu'on peut dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est un temps pour agir comme des vrais chrétiens. Agir comme des vrais chrétiens, c'est rechercher Dieu davantage. Il ne faudrait pas attendre des pandémies pour le faire, évidemment. Rechercher Dieu, ça devrait se faire tous les jours. Premièrement, personnellement. Je ne dois pas attendre que les autres le fassent pour moi. C'est moi qui dois avoir une vraie relation avec le Seigneur. Et ça, on dit tout à l'heure, ça passe par un vrai culte personnel. On a l'occasion aujourd'hui, parce que si on est confiné chez soi, d'avoir du temps. Et donc, d'ouvrir la Bible, de prendre un chapitre par jour, de le lire, de méditer personnellement, pourquoi pas avec son épouse, ou peut-être avec les enfants, mais j'ai le temps de le faire. Là, on n'a plus d'excuses. J'ai le temps ensuite de prendre un moment dans la prière, occasion de prier pour soi, de repentance, occasion de prier aussi pour les uns et les autres de l'Église, pour nos familles, pour tous ceux que l'on connaît. J'ai l'occasion de faire un vrai culte personnel. Et peut-être durant ce temps, je vais prendre l'habitude tous les jours de le faire. Et quand tout rentrera dans l'ordre, et j'espère que ça sera bientôt, eh bien peut-être que j'aurai pris cette habitude et j'aurai plus jamais envie d'en changer, parce que je vais me rendre compte que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien et j'en aurai besoin, tout simplement. Cette recherche de Dieu, c'est aussi une vie consacrée et une vie sanctifiée. C'est pas moi qui le demande, c'est le Seigneur. Chacun sait où il en est vis-à-vis du Seigneur dans ce domaine-là. C'est tout simplement le désir de ressembler et de plaire à Jésus-Christ. C'est ma maturité spirituelle qui me pousse en fait à vouloir vivre consacré et sanctifié. Ça démontre aussi ma maturité spirituelle. Et le chrétien devrait en fait avoir envie d'avoir une foi de plus en plus solide, hein, pour être prêt à tout justement. Et peut-être par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors on le sait, la foi ne grandit pas comme ça. Il faut passer par l'épreuve, par la difficulté. Et si vous voulez grandir, le Seigneur permettra des fois certaines choses pour qu'on grandisse, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de toute façon. Mais il faut désirer cette foi qui est grandissante, cette consécration, cette vie sanctifiée. Ça, c'est la recherche, on va dire, personnelle. Normalement, en temps normal, c'est par les activités qu'il nous a ordonnées. Il y a ce qu'on appelle le programme Église, qui a été conçu justement pour nous préparer à ces situations. Je me souviens qu'on avait parlé il y a quelque temps, et s'il nous arrivait un malheur, qu'on ne pouvait plus se réunir parce qu'il y a la persécution, etc., c'est pas la persécution, mais on peut plus se réunir. Donc, c'est pas quelque chose que je disais en l'air. Mais le programme Église qu'on avait avant cette pandémie, avant qu'on ne puisse pas se réunir, était là pour nous préparer à maintenant, tout simplement. Il a été conçu pour nous préparer à ces situations. Si un jour la persécution vient, ça sera exactement la même chose. Mais est-ce que je me suis préparé avec ce programme Église? Ou est-ce que je me dis, j'irai de temps en temps, de façon religieuse, tout simplement, à l'Église? C'est important. J'ai beau le répéter, le programme Église est absolument important pour nous préparer à ce genre de situation. Je ne pense pas qu'on y arrive tout seul. Dans la dernière roulette, il y avait une petite anecdote, un charbon ardent, une fois qu'on le sort du feu, qu'il reste à part, il s'éteint. Il faut le remettre dans le foyer pour qu'il soit de nouveau en train de brûler. C'est pareil avec l'Église. Il y a ce programme aussi de communion fraternelle qui se fait dans l'Église, mais aussi peut-être par des visites, par des repas, par un tas de choses, et qui nous permet de nous entraider. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément le faire dans l'Église, mais cette communion fraternelle, on peut continuer à l'avoir. On peut s'envoyer des SMS les uns les autres. On peut apprendre à se connaître justement les uns les autres par le téléphone. Comment est-ce que tu vas? Prendre des nouvelles des uns et des autres. Je vais essayer de le faire un maximum avec chacun d'entre vous. Avec le temps que j'ai, parce qu'il passe très vite, mais je vais essayer quand même de conserver ce lien les uns avec les autres. Mais on a le temps de téléphoner pour ceux qui sont à la maison. On a le temps d'être sur Facebook. On a le temps de faire beaucoup de choses et de démontrer de l'amour les uns pour les autres au travers de cette communion fraternelle. Bon, ces programmes ont cessé, on va dire, de façon physique. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Internet. Donc, même confinés, on peut d'une certaine manière continuer ses activités. Et donc, nous avons l'étude biblique le vendredi soir. On a fait des tests. J'espère qu'on va s'améliorer. Et si vous voulez, il suffira de vous connecter. Et vous pouvez participer en direct à l'étude biblique, interagir. C'est extraordinaire. On peut s'appeler les uns les autres. On peut s'écrire. On peut faire un tas de choses pour conserver le lien et faire de telle sorte à ce que le programme Église, même si nous ne pouvons pas faire, ici, si ça allait déshonnête à être ici, nous pouvons continuer à le faire au travers d'Internet, au travers de tout ce que la technologie nous donne aujourd'hui. J'ai envie de dire presque merci Seigneur pour tout cela. Autrement, on ne pourrait même pas s'appeler. Un temps pour agir comme de vrais chrétiens en priant, sans cesse et avec ferveur. On répète toujours les mêmes choses. Mais peut-être là, justement, de se rendre compte que la prière, ce n'est pas un loisir, c'est quelque chose d'absolument sérieux, et le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Il ne l'a pas dit comme ça, il l'a dit très sérieusement. Et la prière ne se fait pas urgente uniquement quand il y a un virus. Il y a un autre virus qui s'appelle le péché, et il est là tous les jours, et ça devrait être urgent. Mais la prière est une affaire sérieuse pour le chrétien et pour l'Église. Sérieuse pour soi d'abord, parce que je vais prier pour mes besoins, ça c'est clair, mais normalement la Bible nous apprend aussi à prier pour les frères, pour les sœurs, pour le monde, pour les autorités, et particulièrement aujourd'hui elles en ont besoin, mais aussi prier ensemble, parce que prier ensemble, ça permet la communion fraternelle, mais dans la prière. Alors cette communion fraternelle, j'ai envie de dire, elle n'est pas que dans l'Église, le fait de prier les uns pour les autres, c'est toujours une communion qu'on a dans la prière, et là je vous encourage vraiment chacun à prier les uns pour les autres. Mais c'est bien d'être ensemble aussi et de pouvoir, ben, comme on le fait mardi soir ou le vendredi soir, d'être ensemble en tant que chrétien et de prier. Peut-être qu'aujourd'hui, on va se dire que plutôt que faire telle activité, ben, je peux peut-être la décaler et me dire, allez, mardi, vendredi soir, j'ai compris maintenant l'urgence de la prière et l'importance de la prière et je vais peut-être faire passer certaines choses en second plan par rapport à cette activité qui est absolument, absolument importante. Le Seigneur l'a répété plusieurs fois dans la Bible, ce n'est pas par hasard, c'est que c'est important pour lui, à nous de le comprendre. Et j'espère que peut-être cette période va nous faire prendre conscience de cette importance de la prière. La Bible, on l'a dit tout à l'heure, nous demande de prier pour les autorités. Hein, c'est dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Prier pour les autorités aujourd'hui, je crois que c'est extrêmement important, déjà avant, mais prier pour que Dieu leur donne de la sagesse, ils en ont besoin, leur donne de prendre les bonnes décisions pour notre pays, parce que c'est quand même eux qui sont à la barre de ce pays. Ils ne sont pas forcément chrétiens, mais Dieu peut leur donner de la sagesse aussi, hein, c'est lui qui les a instaurés. On rappelle la Bible aussi, alors prions régulièrement pour ces autorités, pour que Dieu leur donne vraiment de la sagesse. On peut prier aussi pour le monde des soignants, pour les médecins, pour tous ceux qui sont en train d'agir vis-à-vis de cette pandémie. Ils ont besoin du soutien dans la prière. Mais quand la pandémie va partir, j'espère vite, il faudra que ces prières continuent à être régulières, plus forcément vis-à-vis de cette pandémie, mais il y a tellement, tellement d'autres sujets. Hein. Par exemple, dans 1 Timothée 2, justement, il dit qu'on doit prier sans cesse pour nos autorités, pour que nous puissions vivre paisiblement notre foi dans notre pays. Je ne sais pas si tout le monde l'a compris, c'est important. Parce que pour l'instant, nous ne sommes pas persécutés, mais il faudrait avoir la visite d'autres chrétiens en Chine ou ailleurs. Eux sont persécutés pour leur foi et eux comprennent ce que ça veut dire de prier pour les autorités. La Bible nous appelle aussi à prier dans Jacques 5, 14 pour les malades. J'espère que personne n'a quelqu'un de touché dans la famille. Je vous l'ai dit par email que ma maman a été atteinte. Pour l'instant, ça va, elle a le moral, elle est chrétienne. Donc, je suis heureux qu'elle garde le moral, mais merci pour vos prières déjà. Mais si jamais ça arrivait dans vos familles, n'hésitez pas à venir me le partager, que je puisse aussi le partager aux autres et que nous puissions vraiment faire une chaîne de prières les uns pour les autres et pour les éventuels malades. On peut déjà prier avant d'être malade, ça aussi c'est pas mal. Que le Seigneur nous protège et particulièrement ceux qui doivent se déplacer au travail. Que le Seigneur les protège. Mais il ne faut pas que ce soit l'urgence qui nous motive à prier. Il ne faut pas que ce soit le danger actuel qui nous motive à prier. Il faut simplement que ce soit l'ordre du Seigneur, prier sans cesse, qui me motive à me mettre au travail. C'est bien d'avoir l'urgence, de comprendre que c'est important, mais c'est l'ordre du Seigneur qui nous a donné, auquel il faudrait obéir, qui doit motiver notre vie de prière. Elle devrait être motivée pas seulement quand la mort frappe, mais elle doit être motivée tous les jours, pour tous les domaines, mais motivée parce que le Seigneur me le demande. Une troisième chose que je peux faire pendant ce temps, c'est-à-dire en tant que vrai chrétien, agir comme un vrai chrétien, ben, c'est témoigner. Alors c'est vrai que confiné, ce n'est pas évident de témoigner, d'autant plus que moi dans mon travail, on doit s'éloigner d'un mètre les uns les autres, il faut crier pour s'entendre. Mais on peut témoigner par téléphone, on peut témoigner par SMS, sur Facebook, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et cette pandémie est une bonne occasion de témoigner, justement, même si on ne peut pas le faire directement, mais peut-être de faire prendre conscience aux gens que, ben, voyez, la fragilité de votre vie. On ne le réalise pas quand il n'y a pas de pandémie. On vit tranquillement, sous le beau soleil, comme on a vu... dimanche dernier, les gens n'avaient pas vraiment compris ou ne prennent pas conscience des choses. Mais c'est face à la mort ou à la possibilité de la mort que bien souvent, ben, au moins certains se mettent à réfléchir sur le sens de leur vie. Et c'est peut-être là une bonne occasion, ben, de leur parler de Jésus-Christ et du salut qu'il veut leur offrir. Dieu nous donne des occasions. Si Dieu nous donne des occasions aujourd'hui, ben, présentons le salut à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et son amour pour eux. Mais, comme je dis, la pandémie n'est pas quelque chose qui doit nous pousser à l'urgence du témoignage. Le témoignage est de toute façon urgent tout le temps, tous les jours, parce que tous les jours, des milliers de personnes meurent. Il y a plus de personnes qui meurent aujourd'hui de mort naturelle qu'à cause de la pandémie. Mais ces milliers de personnes, si elles ne sont pas sauvées, elles vont rejoindre l'enfer. Hélas, c'est là où c'est urgent de témoigner à quiconque veut bien entendre parler de l'Évangile. Que notre témoignage, que le Saint-Esprit nous aide aussi dans ce témoignage, et puis j'espère, sensibilisera les perdus, et face à tout ce qui se passe aujourd'hui, l'amour de Dieu, c'est pas négligeable, hein, c'est pas non négligeable, et ça fait du bien de se savoir aimé par Dieu, et à nous de présenter tout simplement cet amour de Dieu pour chacun d'entre eux. Voilà donc un temps de pandémie peut-être, durant lequel je pense que nous, chrétiens, nous devons savoir prendre nos responsabilités. Nous approcher de Dieu, vraiment sérieusement, comprendre l'importance de s'approcher de Dieu. Un temps pour prier sérieusement, apprendre à prier, pourquoi pas, dans la régularité, dans les sujets, dans la diversité des sujets, mais apprendre à prier surtout pour nos autorités, qui en ont besoin, je l'ai déjà dit, apprendre à prier les uns pour les autres, pour que Dieu nous préserve de tout problème. Voilà un temps que le Seigneur nous donne, à nous de l'utiliser. Pour terminer, face à cette pandémie, n'ayons pas peur. Je sais, je suis comme vous, je vais au boulot, je me pose toujours des questions, mais nous, en tant que chrétiens, je pense que nous ne devons pas avoir peur, mais plutôt avoir la foi et agir en tant que chrétien. S'il devait m'arriver quelque chose, je sais où je vais, et c'est toute ma joie de rejoindre le Seigneur. Je ne suis pas pressé non plus, évidemment. Mais avoir la foi ne signifie pas agir n'importe comment. On est bien d'accord. Le monde agit n'importe comment, mais en tant que chrétien, je me sens responsable vis-à-vis de l'autre. Et je veux être prudent d'abord pour moi-même. Ces gestes barrières ne sont pas là pour rien. Elles me protègent moi, mais elles protègent surtout l'autre. Et si je dis être chrétien, ça veut dire que j'aime mon prochain comme moi-même. Et si je ne fais pas ces gestes barrières pour mon prochain, c'est que je ne l'aime pas. Alors je sais que c'est une discipline, c'est pas évident, je vois ça à mon travail, toujours être à un mètre, c'est pas évident, mais il faut que je l'aie dans la tête, hein, et que je prenne le temps d'y réfléchir, parce que c'est un geste d'amour vis-à-vis de mon prochain. Je veux être prudent pour ma vie, mais je veux être aussi prudent pour la vie des autres. Ça, c'est de l'amour. Gardons espoir, prions, comme on l'a dit, pour que le Seigneur ait pitié de cette humanité qui, hélas, s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Je ne vais pas vous dire pourquoi Dieu permet cela, je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que nous pouvons garder espoir, que nous pouvons prier pour que le Seigneur ait justement de la miséricorde pour tous ceux qui ne le connaissent pas, une bonne occasion pour eux de se repentir et de l'accepter dans leur vie. Que Dieu nous protège tous, et je prie pour cela régulièrement, et qu'il fasse ce qu'il voudra de nous, ça, c'est aussi la foi. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime, et continuons à prier les uns pour les autres. N'hésitez pas à me téléphoner si vous en avez besoin, je suis vraiment là pour chacun d'entre vous. Vous pouvez me téléphoner après 14h, c'est à ce moment-là que je sortirai du travail. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et j'espère que bientôt je pourrai prêcher à une salle qui est pleine. Merci Seigneur pour ton amour. Amen.